je vais y arriver. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours très ému par les prières qui sont parfois faites et qui concernent le peuple cambodgien, notamment quand on sait ce qui s'est passé. Ça me touche particulièrement. Alors, je me disais il y a quelques semaines, juste avant les congés, que les congés n'arrivent, qu'il me faudrait à titre personnel prendre un temps pour me retirer un peu de la circulation, comme on dit, loin du bruit, de l'agitation, du tumulte, vous savez, de l'influence dévorante finalement des activités. Et je me demandais si tel était votre projet à vous aussi, vous retirer un tout petit peu pour prendre le temps. Avez-vous pensé à cela? Vous êtes-vous aménagé donc quelques jours afin de vous retrouver seul à seul avec vous-même, seul à seul avec votre Dieu, sans vos enfants, ni femme, ni parents, ni amis, ni frères, ni mari, etc. Oui, il faut penser à ça. Ma question peut alors d'emblée paraître incongrue, contrariante, voire déplacée, lorsqu'on sait qu'en général, les vacances sont faites pour se retrouver. Retrouver ses parents, retrouver ses amis, se retrouver dans son couple, hein, vous savez. Donc, pourquoi est-ce que j'aborde les choses de cette façon, hein, ce beau dimanche matin, alors que tout nous sourit? Pourquoi jouer aux troubles fêtes, n'est-ce pas? Eh bien, rassurez-vous, vous avez le droit d'avoir de tels projets, de prendre le temps aussi de retrouver ce que vous aimez, je le fais moi-même. C'est que les congés annuels sont aussi l'occasion de faire une petite pause au calme, une pause consciente, vous voyez. Souvent on est dans l'activité, mais une pause consciente, on pose les choses, on est réfléchi de ce que l'on vit, de comment on le vit, de pourquoi on le vit. Non pas vivre toujours en surface, mais en profondeur, pour voir finalement ce qui en résulte pour nos âmes. Donc c'est pour moi l'occasion de vous parler, c'est donc pour nous l'occasion, dans cette logique-là de repli et de retraite, de pouvoir parler à notre Dieu. Et moi j'ai eu à cœur, justement, en me repliant un peu cette semaine, j'ai eu à cœur de vous porter un message d'encouragement. Alors souvent on porte un message d'enseignement, mais alors aujourd'hui ça ne sera pas vraiment un message d'enseignement, mais plutôt d'encouragement. C'est ce que j'ai eu à cœur. Alors, je n'aime pas dire « le Seigneur m'a dit ». Ça fait prétentieux. Et puis, parfois, le Seigneur ne m'a pas dit. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas à cœur de. Pourquoi? Parce que quand on vit avec Dieu, le Seigneur nous donne une identité nouvelle, une personnalité nouvelle, et donc on peut penser comme lui, sans que le Seigneur nous ait dit tout le temps, vous voyez, toutes les 3 minutes, le Seigneur m'a dit. Non, le Seigneur ne m'a pas dit. Mais j'ai ressenti qu'il fallait que j'encourage mes frères et mes sœurs qui sont ici avec moi. Le titre de ce message est « Reprenez courage ». Alors je m'adresse à vous qui êtes jeunes parmi nous. Lequel d'entre vous n'est-il pas stressé par son devenir, par son avenir? Lequel d'entre vous ne se demande-t-il pas s'il parviendra à honorer les espoirs que sa famille fonde en lui, place en lui? Lequel d'entre vous ne se demande-t-il pas s'il parviendra à trouver sa voie professionnelle, s'il réussira ses études? Et lequel d'entre vous ne s'estime pas parfois incompris du monde des adultes? Je parle des jeunes, voilà, quand je parle de la jeunesse, c'est entre 10 et 25 ans, par exemple. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vais aller un peu plus loin dans les tranches d'âge. Lequel d'entre vous ne s'est-il jamais demandé s'il comptait vraiment pour ses propres parents? Ça peut arriver, voyez. Ça vous est peut-être arrivé, vous qui êtes plus âgé. Tant les parents paraissent préoccupés par leurs affaires, à vous qui souffrez donc. À vous qui êtes en activité professionnelle, lequel d'entre vous ne ressent-il pas de la frustration, de la non-reconnaissance, de l'injustice, voire de l'humiliation, ou encore un sentiment d'épuisement dans l'exercice de son activité? Lequel d'entre vous n'a jamais pensé à chercher un autre emploi, tant les tensions avec les collègues ou avec la hiérarchie peuvent être pesantes? Lequel d'entre vous ne se demande pas s'il parviendra à honorer ses traites de crédit à la fin du mois et à faire bouillir la marmite, comme on dit trivialement, n'est-ce pas? Lequel d'entre vous ne se demande pas s'il réussira à faire de ses enfants des hommes et des femmes accomplis, convertis à Jésus, au service de Dieu et heureux dans la vie. À vous qui souffrez, à vous qui êtes à la retraite, et il y en a quelques-uns ici, me semble-t-il, lequel d'entre vous n'a-t-il jamais souffert du sentiment brutal d'inutilité sociale ? Ce sentiment de ne plus se sentir désiré, compétent, reconnu, légitime sur certaines questions, ce sentiment d'exclusion au sein de certains cercles de la vie sociale, ce sentiment d'être mis de côté par ceux qui désormais mènent la danse, vous savez, ceux qui sont en activité et qui croient tout savoir. À vous qui souffrez, à vous qui êtes âgés, à vous qui êtes parfois, voire souvent, oubliés ou négligés, à vous qui êtes devenus aux yeux du commun quasi transparents, tel du cellophane, vous savez, le papier cellophane. À vous que les forces abandonnent, à vous qui souffrez souvent de solitude comme dans vos chairs affaiblies, à vos semblables qui sont maltraités physiquement et moralement dans les EHPAD en France et récemment interdits de visite à l'occasion de la crise sanitaire, à vous qui souffrez, à vous qui êtes célibataires, lequel d'entre vous ne s'est-il pas désespéré de trouver, je ne dirais pas l'âme sœur parce que je n'y crois pas, mais une personne à aimer. Lequel d'entre vous n'a-t-il pas souffert de se retrouver dans son logement, sans personne à qui parler, à qui pouvoir parler le soir, à qui partager les bons et moins beaux moments de la vie ? À vous qui souffrez. À vous tous qui souffrez dans votre couple, jeunes et vieux d'ailleurs, car personne n'est épargné. À vous qui ne vous sentez pas aimé, pas suffisamment aimé, ou encore pas bien aimé. À vous qui ne vous sentez pas désiré, pas compris dans votre identité profonde, à vous qui n'osez espérer encore une véritable intimité de cœur avec votre conjoint, une complicité d'âme, à vous qui êtes finalement désabusé par l'amour, à vous qui êtes refermé comme une huître suite à vos déceptions dans ce domaine, à vous qui luttez pour avoir une place, une voix, une reconnaissance au sein de votre couple, à vous qui souffrez. À vous qui n'avez plus de relation avec vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, alors que vous souhaitez pourtant renouer avec eux suite à d'éventuelles disputes, des conflits de famille, à vous à qui l'on a refusé d'ouvrir sa porte, vous reconnaîtrez-vous, à qui l'on a refusé la visite des enfants, des neveux et des nièces, à vous que l'on n'a pas salué lors des réunions de famille, ou que l'on n'a pas invité, ou à vous à qui l'on n'a pas pensé, lorsqu'il y avait un événement important, heureux, au sein de la famille. À vous qui souffrez. À vous qui souffrez de n'avoir pu avoir des enfants. À vous qui n'avez pas pu exprimer votre sentiment maternel ou paternel. À vous qui n'êtes pas reconnus dans la société comme des individus pleinement épanouis à ce titre. À vous qui ne laisserez pas votre nom en héritage, ni votre mémoire. À vous qui ne trouverez pas de petits-enfants à votre chevet. Dans le grand âge, à vous qui souffrez, à vous qui avez perdu un ou plusieurs enfants et qui les pleurez encore malgré les années, à vous que personne ne peut comprendre dans ce domaine tellement intime de votre identité de père ou de mère, à vous qui souffrez, à vous qui voyez vos enfants ou vos conjoints souffrir dans la vie, la santé, le travail, les divorces, l'éducation, l'alcool, la drogue, on voit les autres souffrir, les gens qu'on aime. À vous dont le cœur saigne sans pouvoir aider ou trouver une solution pour soulager ceux que vous chérissez, à vous qui souffrez. À vous qui avez été persécutés dans vos pays, à vous qui avez dû fuir vos pays, votre patrie, qui avez vu des personnes massacrées, à vous qui souffrez. À vous qui ne pouvez plus rentrer chez vous pour embrasser ceux que vous aimez. À vous qui êtes malades, qui souffrez dans votre chair, que l'on abandonne, à vous qui ne recevez plus de visites, à vous dont la maladie a fait fuir tous les amis, voire la famille, à vous qui êtes aux yeux du monde une charge dont il se passerait bien, à vous qui souffrez, à vous qui êtes particulièrement persécutés spirituellement par Satan et ses démons, dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, à vous qui souffrez. À vous à présent qui êtes rongés par le sentiment de culpabilité. À vous qui souffrez, à vous qui êtes découragés de vous-même et qui vous croyez perdus et abandonnés, à vous qui souffrez. À présent, à vous dont la foi est défaillante, la foi défaille, à vous qui souffrez. À vous qui avez perdu courage, à vous qui souffrez. Oui, à vous tous qui souffrez d'une façon ou d'une autre, je m'adresse à vous en vous disant ceci. Reprenez courage. Je vous le dis, moi, parce que c'est important de se soutenir les uns les autres, de se le dire et de reconnaître ce que l'on vit, ce que vous vivez. Je ne dis pas gardez courage, car vous l'avez peut-être perdu ou vous êtes en train de le perdre. Je vous dis reprenez courage. Car Dieu est compatissant et sensible à vos détresses, et moi également, et nous devons l'être les uns pour les autres. Reprenez donc courage. Dieu sait aussi que l'on peut perdre courage, ce n'est pas une nouveauté. Dieu connaît le cœur de l'homme, cela fait partie des expériences de la vie d'ailleurs. Et il souhaite vous fortifier, il le sait, il souhaite vous fortifier. Perdre courage ne doit pas rester lettre morte, Dieu reçoit la lettre. Dieu reçoit la lettre du cri de vos cœurs, il le sait, et il peut y répondre, et il y répond. Beaucoup d'hommes et de femmes de tout temps ont traversé des épisodes de découragement et de détresse, et Dieu les a relevés. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ici pourraient nous donner des témoignages, donc des épreuves par lesquelles telle ou telle autre personne sont passées, et suite auxquelles Dieu les a relevés. J'aimerais donc aujourd'hui vous consoler, humblement, mais le faire, et vous aider à reprendre courage en vous rappelant combien notre Dieu est compatissant et désire nous encourager. C'est quelque chose qu'on oublie, on prie, on demande à Dieu, mais on oublie qu'il nous aime, on oublie qu'il tient compte de notre sensibilité, on oublie qu'il tient compte de ce qu'on est vraiment et qu'il souhaite nous encourager. Il souhaite nous fortifier dans la spécificité de ce qu'on est. Pas Monsieur Dupont comme Madame Durand ou Madame... Non, non. Chaque personne, il veut l'encourager avec des mots bien particuliers et d'une façon bien particulière parce qu'il nous connaît individuellement. Alors moi, j'ai d'abord en tête ce verset qui va nous faire rentrer dans cette... je dirais, dans cette méditation sur le réconfort. Donc c'est dans Matthieu 11, 28. C'est un verset que tout le monde connaît. Peut-être que certaines personnes qui sont venues pour la première fois ici ne le connaissent pas, ce verset. Mais alors, il est pour vous ce verset. Je vous l'offre. Le Seigneur vous l'offre. Je vous l'offre aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui dit ça. Jésus qui a marché. S'est fatigué lui-même, qui a éprouvé des difficultés sur terre, qui a éprouvé des contrariétés sur terre, qui a éprouvé des détresses sur terre, des détresses, des angoisses, c'est écrit dans la Bible, des angoisses sur terre. Il vous dit ça. Il vous dit, venez à moi, vous tous. Ça veut dire que vous devez venir à lui aujourd'hui. Aujourd'hui, arrêtez de faire semblant de prier. Allez à lui. Demandez-lui vraiment. Allez à lui. Arrêtez de faire semblant. Il y a aussi ce très réconfortant verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, 1 à 4. Ça, c'est chaque fois que je lis cela, c'est comme s'il y avait, vous savez, une pluie réconfortante qui tombe sur moi. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Ça, vous savez, moi, pour moi aujourd'hui, Dieu n'est plus le père fouettard avec un gros bâton qui vous tombe dessus. C'est faux. Jésus est venu réconforter, sauver. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. L'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. Quand on a compris ça, on a tout compris. Ce n'est pas un esprit où on vient vous redemander des comptes, on vient vous charger. Il le sait ce que vous avez fait. Il le sait, il connaît votre vie. L'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. Jésus a consolé, Jésus a réconforté, Jésus a rassuré, Jésus a aimé. Et le Saint-Esprit continue à le faire. Je vais lire ce verset et je vous le lis pour vous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ce verset, c'est une prophétie qui annonce Jésus. C'est annonciateur de ce que Jésus allait faire. Là, c'est Jésus qui parle. Et c'est Ésaïe qui a prophétisé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a des malheureux ici. Je suis malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé ici. Je le sais. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Une année de grâce, ça veut dire qu'on vous donne une année de repos. On dit, aujourd'hui pour toi, cette année pour toi, c'est la restauration. C'est la restauration. Prends le temps. Je termine. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, voyez, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation d'Éternel pour servir sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous voyez, on a des ruines, eh bien vous allez rebâtir sur d'anciennes ruines. Oui. Vous allez le faire. Ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis le temps. Ces villes, ce sont vos cœurs. Ces villes, ce sont vos esprits. C'est votre histoire, c'est votre passé. On peut le prendre au second degré, peu importe. Mais voyez, là, il y a un message d'encouragement qui est très fort. Il ne date pas d'aujourd'hui. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, est un esprit... On dit toujours l'amour, mais... C'est un esprit de consolation. Vous savez, l'amour peut se décliner de plusieurs façons. Dans l'amour, il y a la consolation, il y a la compassion. Voilà, ce verset, je vous invite à le lire. Je vous invite à le garder. C'est comme un cadeau formidable qui nous parle de Jésus et qui est vraiment une onction, qui est un baume pour le cœur de toute personne. Croyons ou pas, il touche les gens, il parle aux gens. C'est un verset important qui va vous aider à vous fortifier. Vous connaissez également dans le verset, dans Ésaïe 53, 4, 6, un verset qui nous rappelle que Jésus est venu se charger de nos souffrances. Alors, Ésaïe, verset 53, 4, 6, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs... dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. » Ce verset nous annonce quand Jésus est venu, il a été crucifié, il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et nous acceptons, c'est vrai, de mourir aussi avec lui. Nos souffrances étant englouties dans la mort de Jésus. Nous les lui remettons. Vous avez des souffrances, moi aussi. Remettez-les lui. Abandonnez-les lui. Considérez qu'elles font partie de l'ancien monde. Même si parfois, elles vous brûlent ces souffrances. Elles font quand même parti par la foi, je dis bien par la foi, de l'ancien monde, des antiques ruines, des décombres. Ce n'est pas votre vie réelle. C'est un passé, je dirais, trompeur, qui semble encore être là, mais c'est enseveli. Et c'est en Jésus-Christ que c'est enseveli. Parce qu'il est mort, l'ancien monde est mort, le nouveau monde, donc, paraît. Et la vie paraît avec ce monde, c'est-à-dire la vie vient avec la résurrection. Donc, la joie, vient avec la raison. Il n'y a aucune raison que reste dans votre cœur la tristesse et l'abattement. Il y a cette résurrection en Jésus-Christ. Et ces versets sont aussi des versets auxquels nous devons nous raccrocher. Quand nous faiblissons, ça nous arrive. Alors tout ça, ce sont les bonnes nouvelles de l'Évangile. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Que certains connaissent, que certains ne connaissent pas. Mais on ne se lasse pas d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Même après 2000 ans, on ne se lasse pas de l'annoncer. Elle est pour nous, elle est pour moi. Elle est pour nous tous. Elle est pour nous tous qui souffrons sur cette terre. Dans un corps de chair, nous souffrons et nous souffrirons tout le temps. Mais le message, c'est reprenez courage. Je n'ai pas dit cessez de souffrir. Est-ce que je vous ai dit cessez de souffrir ce matin? Je ne vous ai jamais dit ça. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas réalisable. Personne ne peut cesser de souffrir. Personne. Jésus n'a pas été exempt de souffrance. Homme de souffrance, habitué à la douleur. Tout de même, hein, c'est écrit dans la Bible. Homme de souffrance, habitué à la douleur. Alors, ça ne veut pas dire... Mais quand je vois le Seigneur, je me dis, il a souffert. Qui l'a consolé, Jésus-Christ? J'espère que quelqu'un l'a consolé quand il était sur terre. J'espère qu'un ami, un disciple, une maman, un papa, j'espère qu'il a été consolé. C'était aussi un homme, fils de l'homme. J'espère que quelqu'un l'a consolé. J'espère. Je pense. Maintenant, nous allons faire un petit détour rapide pour vous montrer de quelle façon Dieu peut nous consoler parfois. Je ne vais pas trop vous embêter ce matin, trop durer, mais on va voir des multiples façons dont Dieu peut nous consoler. Alors, on va commencer par quelque chose de rigolo pour détendre l'atmosphère et vous montrer que Dieu a de l'humour même quand nous sommes au bout. Je vais vous parler de Jonas. C'est Jonas, 4, 2, 6. Jonas, je vous rappelle la petite histoire. Dieu lui a dit, tu vas à Ninive, tu leur dis que s'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. C'est ce que Dieu dit. Va leur annoncer que s'ils ne se repentent pas, je les détruirai. Jonas n'avait pas envie d'y aller. Pourtant, c'était un prophète. Il n'avait pas envie d'y aller, il ne voulait pas obéir à Dieu. Il a quand même fait parce que Dieu l'a obligé. Je vous lis la suite. Jonas fit cette prière après avoir dit à Ninive de se repentir. Mais il a fait de mauvais cœur. Il a circulé dans les villes, il fallait 3 jours pour parcourir la ville. Il a fait ce travail de mauvais cœur. Et une fois qu'il a fait ce travail, voici ce qu'il dit. Il fit cette prière. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux. Un Dieu tendre, oui. Il le sait. Jonas, qui est méchant, qui est dur de cœur, qui est le prophète de l'Éternel, il dit, tu es un Dieu tendre et miséricordieux. Ça l'énervait que Dieu soit comme ça. Lent à la colère et plein d'amour. Renonçant au châtiment. Voilà ce que Jonas pense de Dieu. Eh bien, Seigneur, regardez le mauvais caractère de Jonas. Prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Alors, Jonas est particulier parce que moi, je me réjouis que mon Dieu soit tendre, miséricordieux, plein d'amour, etc. Jonas, lui, quand il s'agit que l'amour de Dieu se déverse sur les pécheurs, soit au bénéfice des pécheurs, lui, ça le contrarie, ça le déprime, et il est découragé, mais vraiment, il ne faisait pas semblant. Et Jonas dit, Seigneur, eh bien, puisque c'est comme ça, en gros, Seigneur, prends ma vie, ça veut dire je veux mourir. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Il était au bout du bout. Il avait fait un long périple pour fuir Dieu, pour lui résister. Il n'en pouvait plus. Il préférait mourir. Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Donc, il dit, « Je vais voir maintenant ce que Dieu va faire. » et je m'imagine qu'il attend que Dieu frappe. Alors le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. On pourrait dire de son chagrin, on pourrait dire de son découragement. Oui, donc Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. On ne lit pas la suite de l'histoire parce qu'elle finit mal du point de vue de Jonas, c'est-à-dire qu'il continue à s'irriter. Mais Dieu a fait des tentatives envers Jonas pour le calmer, pour le consoler, pour lui parler. Il a fait des tentatives. Il a même fait pousser une plante, une belle plante. Oui. Moi, quand des fois je suis sous un arbre, je suis heureux. Mais ça m'aurait fait pareil hein, si j'avais eu le ricin qui poussait au-dessus de ma tête. Dieu donc peut, par une voie, je dirais, assez particulière, vous apporter du réconfort, ponctuellement. Dieu peut aussi vous envoyer un ange pour vous fortifier. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, aujourd'hui encore. En tout cas, nous avons un témoignage dans 1 Roi 19, 1 à 8, d'une personne qui a été véritablement relevée par un ange, consolée par un ange. Il s'agit d'Élie. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Élie avait fait tomber le feu. Et les prophètes de Baal, les prophètes, on va dire, des idoles, ont été tués. Il les a fait égorger. Élie a fait égorger les prophètes. Donc on rapporte ça à Jézabel, tout ce que Élie a fait. On rapporte tout ça à Jézabel. Jézabel, je crois que c'était une souveraine. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il prit peur. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, vous voyez, comme Jonas. Je veux mourir. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Je veux mourir. Il demanda la mort, tout simplement. C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Un sentiment d'échec, de découragement. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. C'est étrange. L'ange ne lui a pas parlé, ne l'a pas réconforté avec des paroles, comme je suis en train de le faire maintenant, même si c'est important qu'on nous parle. Mais l'ange lui a dit, lève-toi et mange. Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il va être fatigué encore, découragé. L'ange éternel vint une deuxième fois, le toucha, lui, et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et c'est là que le miracle intervient. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que Dieu lui donne, que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Dieu l'a encouragé avec un gâteau fait maison. Un bon gâteau fait maison. On ne m'en a jamais fait de tel parce que je vous assure que ce gâteau, pour marcher 40 jours et 40 nuits, la pâte devait être exceptionnelle. Ça devait être vraiment... Mais on a des anges pâtissiers peut-être. Mais voyez, Dieu est bon, Dieu est grand et Dieu peut d'une certaine façon relever quelqu'un. Un ange lui a parlé, le fait d'avoir été touché par l'ange. Lève-toi, mange. Ça a suffi pour relever le cœur d'Élie. Il n'est pas resté couché, il s'est levé, il a marché comme un bulldozer. Il a marché. Oui, c'est incroyable, c'est formidable. Dieu peut aussi le faire pour vous. Dieu peut aussi le faire pour vous. Alors, soit par un gâteau ou par que sais-je, mais Dieu, dans vos détresses, peut le faire. Croyez-moi, il peut le faire. Tout est possible. Donc ça, c'est un... Je trouve qu'il y a de l'humour également là-dedans. Hein. Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous parler. Et je suis assez sensible à cela parce qu'on parle d'amitié là-dedans, dans ce verset. L'amitié, vous savez, c'est important. L'ange de l'Éternel, alors pardon, on est donc dans 1 Samuel chapitre 23, 14 à 18. Là, on va parler de David, du roi David qui n'était pas encore roi à l'époque, mais qui était pourchassé par Saül, le roi, en place. David demeura au désert dans les lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours pour le tuer, hein. Mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, sachez-le, c'est le fils de Saül. Saül veut tuer David, mais le fils de Saül protège David. Il y a une amitié entre eux. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. C'est beau ça. Hein. Quelqu'un vient vous parler, vous êtes découragé, vous êtes abattu, vous fuyez, vous n'avez pas d'avenir. Quelqu'un vient vous voir, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ange, je ne sais pas. Il vient vous voir, vous parle, et fortifie votre foi. Parce que la foi, elle est descendue dans les chaussettes là. Oui. Alors que précédemment, sachez que David, le prophète avait dit que ce serait lui le roi. Il avait reçu une parole prophétique à son sujet. Le prophète avait dit, ça sera toi qui succéderas à Saül. Et c'est de là qu'a commencé les problèmes. Il savait qu'il serait roi, mais certainement qu'il en a douté. Sa confiance en Dieu avait diminué. Un ami est venu le voir. Alors ne soyez pas comme les amis de Job, surtout. S'il vous prenait d'aller encourager quelqu'un, faites-le dans l'esprit de Jonathan. Jonathan qui vient, qui fortifie la foi de David en Dieu. Ne le faites pas si vous n'avez pas cet esprit d'encouragement. Ne venez jamais avec des reproches quand quelqu'un est à terre pour dire, mais quand même, ce qui t'arrive, c'est ta faute. Mais oui, je le sais. Il le sait. La personne le sait que c'est sa faute. C'est triplement sa faute. C'est toujours notre faute quand il nous arrive des problèmes. C'est souvent notre faute. On le sait. Quand quelqu'un vient vous voir, il est inutile qu'il le répète et qu'il vous le dise. Vous le savez déjà. Il faut fortifier la foi des gens qu'on aime, des gens que vous avez à cœur. Vous allez les voir et vous les fortifiez. Ça suffit. Ça suffit. Vous allez les voir, vous les fortifiez, vous partez. Dieu fera le reste, mais vous le faites. Comme Jonathan l'a fait avec beaucoup d'amour à son ami David. Donc, je peux faire pousser un arbre pour rafraîchir votre tête lorsqu'elle est surchauffée. Un ange peut vous préparer un gâteau. Un ami, un frère, une sœur de l'église, un pasteur, un homme de Dieu, un inconnu peut venir vous dire une parole de la part de Dieu. Tout est possible, on peut être fortifié dans sa foi quand elle est défaillante, chancelante. Dieu peut vous encourager par les rêves. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle, mais courtement. Les rêves. J'ai traversé une période où j'étais découragé. Et voilà le rêve, voici le rêve que j'ai fait. Un rêve très court, mais ça m'a vraiment encouragé. Ça m'a vraiment montré que Dieu ne m'oubliait pas. Je me suis retrouvé dans une chambre et je me voyais assis là, sur un lit. La chambre était vraiment... Il n'y avait que les murs. C'est-à-dire, c'était la misère. Il n'y avait que les murs. Et il y avait une sorte de table. J'étais assis, j'étais tout seul. Personne. Pas un bruit, pas une fenêtre. C'était une chambre, vous savez, aveugle. Et là, j'entends quelqu'un qui ouvre la porte. Et je vois un homme. La porte était entrebâillée, était entrouverte. Il a ouvert. Il ne m'a rien dit, il est rentré. Et quand il est rentré, j'ai commencé à... J'ai eu des sanglots de rire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai ri. Il y a une sorte de joie mêlée à de la peine qui sont sorties. Et je sanglotais, mais de joie de voir cette personne venir. Et je savais qui c'était. Je savais que c'était Jésus. Je savais que c'était Dieu. Et cette personne s'approche de moi. Et au même instant, je ne le vois plus. Je vois trois personnes, trois hommes, prier face à face. Et moi à côté, prenant le bras d'un des trois hommes. J'étais accroché à l'un des trois. Et il priait sans me regarder. et je me souviendrai toujours de cette image, Dieu est venu simplement me parler. Trois personnes, je pense que c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois hommes, ils ne m'ont pas parlé, ils ne m'ont pas adressé la parole, pas une parole, ils ont juste prié, et je pense qu'ils priaient pour moi. Et moi, j'étais accroché, comme un enfant, au bras de l'un des trois. Voyez. Donc, c'était un songe, et Dieu peut aussi venir vous encourager, comme ça, par un songe, et dont vous allez comprendre que ce n'est pas juste un rêve, c'est quelque chose vraiment pour vous, et vous le savez. Et il y en a d'autres, il y a des cas comme ça dans la Bible, notamment Gédéon, se voit raconter le songe de quelqu'un, il comprend que Dieu va l'aider. Donc je passe, je ne vais pas vous lire ce verset-là, on va passer. Donc Dieu peut nous encourager en venant nous visiter de cette façon. Peut vous parler directement, comme il a fait pour Gédéon. Gédéon, vous connaissez l'histoire de Gédéon, hein ? Alors, Gédéon, on est dans Juges 6, on a bientôt terminé. Juges 6, verset 6 à verset 16. C'est un peu long, je ne vais pas tout lire. Alors, l'ange de l'Éternel, on va commencer avec le verset 11, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, dans le pressoir, pour le soustraire au pillage... pardonnez-moi, je me suis trompé. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Donc les Madianites, c'était des ennemis. L'ange du Seigneur lui apparut. Il apparut à qui ? À Gédéon. Et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Il vient lui dire, « Le Seigneur est avec toi, Dieu est avec toi, vaillant guerrier. » C'est-à-dire, il lui dit, « En fait, tu es fort, vaillant guerrier, et je suis avec toi. » C'est pas tout. Alors, Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Pourquoi est-ce que tous ces malheurs vous sont arrivés ? Pourquoi est-ce que vous avez perdu un enfant ? Pourquoi est-ce que vous avez été persécuté dans votre pays ? Pourquoi il y a eu un génocide ? Pourquoi il y a eu ? Pourquoi ? Pourquoi le Cambodge ? » Oui, on peut se demander. Donc, pourquoi tout ceci m'est arrivé ? Mais le Seigneur vient à ton secours. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter ? Alors pardon, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte ? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? La suite, le Seigneur dit encore, le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Dieu peut venir parler, peut venir te parler, peut venir vous parler. Et je peux vous dire que Gédéon, il a été vraiment très dur à convaincre. Si vous voyez la façon dont Gédéon a répondu, a demandé des preuves de la présence de Dieu, de son assurance. Il a même demandé des signes à Dieu. Moi, je ne me permettrai pas ce genre de choses. Et Dieu, malgré tout, lui a répondu, a voulu l'assurer de son soutien. Donc Dieu peut venir vous parler directement, vous dire des choses. Voilà. Vous pouvez être visité, comme ça a été le cas pour Gédéon. Hein. Ce n'est pas parce que c'est arrivé il y a des siècles, ça ne peut plus arriver. C'est faux. Il y a des gens qui vivent des choses, des chrétiens qui vivent des choses extraordinaires dans le monde. Pourquoi pas vous et pourquoi pas moi ? Alors je termine en vous disant que le Seigneur nous a donné le Consolateur. Il faut quand même terminer avec ça. Dieu peut vous visiter, Dieu vous faire un gâteau, Dieu peut vous faire venir un ange, mais n'oubliez pas qu'il vous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le Consolateur. Il sera avec vous. Il sera avec vous. Et donc, il faut aussi pouvoir se confier à Dieu et demander au Saint-Esprit de nous soutenir, de nous relever, de nous guider, de nous montrer la voie. C'est important. C'est important. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très, très, très coriace. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, très difficile, de, vous voyez, et je suis fonceur. Le problème, c'est que j'ai toujours voulu faire avec ma propre force. Alors, j'ai eu des victoires, mais j'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Aujourd'hui, et du coup, l'échec provoque la souffrance. L'échec, les mauvaises décisions provoquent la souffrance, forcément. Après, il y a des souffrances qui nous tombent dessus alors qu'on n'a rien demandé. Parfois, on en est aussi l'auteur, n'est-ce pas? Il faut laisser la gloire à Dieu. Laissez Dieu être la colonne de nuée qui marche devant vous. Laissez-le avoir la gloire de la victoire. Laissez Dieu être cette colonne de feu qui marche devant vous, qui est devant vous la nuit, le jour, la nuit. Laissez Dieu faire. Faites-lui confiance. On a, vous savez, on a... Il y a un terme en sociologie, on dit que le monde a été désenchanté. À l'époque, les gens, toute la terre croyait en Dieu, croyait dans les dieux. D'accord ? Et on est venu rationaliser tout, etc. Oui, mais Dieu existe, et le miracle existe, et le surnaturel existe. Quand vous vous déplacez, croyez que Dieu est avec vous. Croyez que Dieu est en vous. Croyez que le Saint-Esprit peut vous aider. Croyez que le Saint-Esprit peut vous guider. Le Saint-Esprit est avec vous, en vous. On est le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Donc, c'est un côté surnaturel. Quand vous êtes au travail, considérez que Dieu est avec vous. Et vous allez voir, cela va vous aider dans vos difficultés. Cela va vous redonner du courage. Savoir que Dieu est avec vous, mais vraiment avec vous. Alors, concluons. Dans toutes les détresses que vous traversez, faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Prenez les décisions les plus sages autant que vous pouvez. Adoptez les comportements les plus justes autant que vous pouvez. Les plus adaptés. Mais laissez Dieu vous consoler. Laissez Dieu vous relever, vous rétablir, vous faire justice, vous exaucer. Donc, ce que je voulais dire au travers de ce message, c'est que nous avons tous des fardeaux. Ces fardeaux-là, il faut que nous les déposions. Ces fardeaux-là, il faut que nous acceptions d'être consolés aussi. Parfois, on résiste à la consolation. Parfois, on veut se consoler tout seul. Parfois même, on veut rester malheureux. Parce que c'est trop dur d'aller plus loin, de faire un pas en avant. Comment faire? Je termine. Criez à Dieu. Criez à Dieu avec ardeur. Ce qui vous pèse, confiez-lui véritablement ce que vous ressentez. Ne dites pas, c'est pas grave, après tout, ça me regarde. Dites-lui, il n'y a pas de petite souffrance. Dites-lui, si vous trouvez quelqu'un en qui faire confiance, vous pouvez confier, pas à tout le monde, mais confier vos chagrins à des amis, vous voyez, David et Jonathan. Jonathan était une oreille capable de soutenir son ami David. Il y a des personnes en mesure de vous relevez dans votre situation, de relever votre confiance en Dieu. Voilà. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Prenez le temps. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître. Il y a parfois des décisions à prendre également. Si vous êtes dans une situation de souffrance, vous pouvez dire, tiens, ce travail n'est pas fait pour moi, par exemple. Je vais en trouver un autre. Parce que sinon, je vais y laisser... Je vais faire un burn-out, je vais y laisser ma vie, je vais y laisser ma santé. Vous voyez, Dieu fait pour nous certaines choses, mais il y a aussi notre part. Il y a aussi notre part. Consolez-vous vous-même également. Soyez un père, une mère pour vous-même. Dieu veut que nous nous prenions en charge aussi, mais Dieu nous console. Voilà, donc, si vous voulez, on va terminer ce moment de réflexion par une prière. Qui souffre ici? Qui peut dire en levant la main qu'il a une souffrance sur le cœur? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Qui a une souffrance sur le cœur ici? Je veux juste voir si je suis tout seul, hein, on ne sait jamais. Ok, voilà, merci. Alors maintenant, je vais poser une question un peu différente. Qui a une grosse souffrance sur le cœur? Oui. On en a tous des grosses souffrances. Vous voyez, donc, Ça me rassure et ça veut dire que ce message était pour moi, ce message était pour vous. Nous souffrons tous. Mais de cette souffrance, nous pouvons faire une victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À partir de maintenant, vous allez vous lever, vous allez rentrer chez vous, et vous allez dire, oui, oui, je souffre, oui, il y a ça dans ma vie, mais je vais la transformer en victoire. Et le Seigneur, en vous appuyant sur ce que la Bible dit, vous allez dire, je vais être victorieux de ça. Je vais être victorieux. Je vais, la gloire reviendra à Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ce point particulier de ma vie qui me fait souffrir et dont je dois être vainqueur. Et si maintenant je dois souffrir pour Dieu, alors je vais souffrir gaiement. Parce que parfois, il peut arriver que l'on souffre, comme Paul a souffert des tribulations, de la persécution, parce qu'il fallait souffrir. Alors dans ce cas, c'est un choix. C'est un choix, c'est une acceptation totale. Seigneur, je souffre, mais je le fais, parce que je sais pourquoi je le fais. Mais ne souffrez jamais passivement. Écoutez-moi bien. Ne souffrez jamais sans le désirer. Ne souffrez jamais contre votre gré, sans rien faire et sans demander de l'aide à Dieu. Et en restant, en ne faisant rien. Il faut prendre des décisions. Il faut agir. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, chaque fois que, et je termine avec ça, chaque fois que un ange, chaque fois que Dieu est venu parler à tel ou tel homme de la Bible ou telle femme de la Bible, il a fait quelque chose. Et il y a fait quoi? Il a mangé le gâteau, il a marché 40 jours. Et après, il a été vainqueur. Il n'est pas resté sur le découragement. Gédéon qui disait qu'il était le plus petit de sa famille et dont la famille était la plus petite tribu de toutes les tribus. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé les manches, et il est allé combattre et il a vaincu. L'encouragement de Dieu, l'encouragement de Dieu vous donne des forces et vous encourage, vous amène à prendre des décisions. Donc ne pas rester sur place, ne pas rester dans la situation de statu quo, mais ça doit vous conduire à marcher, à avancer, à changer les choses en laissant Dieu devant. Voilà ce que je voulais vous dire très fraternellement aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, on va prier ensemble. Qui voudrait prier? J'aimerais que quelqu'un, parmi les personnes qui ont levé la main, une personne prie, parce qu'il est bon de prier quand on est conscient, très conscient, de ce que c'est que souffrir. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas osé lever la main, parce que tout le monde souffre. Mais que quelqu'un puisse prier pour nous tous, moi aussi je prierai, avant qu'on se quitte, pour nous encourager.